Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.
Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure des spécialistes, les tsars du ballon rond qui parlent quotidiennement de la Coupe du Monde de football. Le premier quart de finale est en cours, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire à disputer entre la France et l'Uruguay. C'est la France qui mène 2-0, la France qui pour l'instant assure l'essentiel dans un match de petite cuvée, pour l'instant un match très tactique, très combatif également. On va décortiquer cette rencontre dans un instant, présenter également la suite des quarts de finale avec le spécialiste du jour, c'est Yves Desbonnets qui va s'y coller aujourd'hui, et on laisse le soin à Jérôme Moutet de nous présenter notre invité du jour.
Yves Desbonnets, vous êtes né à Vevey le 12 décembre 1956, une année bissextile commençant par un dimanche, le jour du Seigneur, des patates au beurre, c'est bien meilleur. Vous êtes né la même année que le chanteur Étienne Dao ou que la tenniswoman qui n'aimait pas forcément tenir le manche, Martina Navratilova. On vous connaît surtout pour deux choses, vos talents de consultant chez nos collègues de la RTS et vos talents d'entraîneur de jeunes. Mais Yves, vous avez aussi été joueur, oui ? Personne ne s'en souvient, mais oui. Et vous avez même joué dans la Feu, Ligue Nationale A. Vous avez débuté à Vevey, chez les jeunes, alors est-ce que vous aviez déjà cette coupe poivre et sel pleine de frisettes ? Les frisettes peut-être, mais poivre et sel certainement pas. Quant à la moustache, elle est effectivement venue très tôt. On peut dire de vous que vous étiez un joueur bipolaire, non pas que vous utilisiez une fois le pied droit et une fois le gauche, mais simplement car vous êtes parti de Vevey pour aller à Sion, pour revenir à Vevey, puis repartir à Sion et revenir à Vevey. Non, non, non ! Pas Vevey sur ce coup-là, mais plutôt à Malais, où en 1993, et selon le site transfermarkt.ch, vous êtes ensuite transféré à Carrière Ende. C'était donc la fin pour vous. Mais au passage, vous gagnez une Coupe de Suisse avec Sion. Et c'est là que vous embrassez, non pas Martina Navratilova, mais une très belle carrière d'entraîneur que vous débutez au FC Sion. Et oui, personne n'est parfait. Vous êtes ensuite engagé à l'ASF, où vous occupez le poste d'entraîneur des U16, U17, U15, U16, U17, U15, U16, U17, U15, puis U18. À ce rythme-là, dans 15 ans, vous coachez les U21 et dans 40 ans, l'équipe de Suisse. Vous possédez la licence UEFA Pro et de formation, vous êtes instituteur, donc pas étonnant que vous vous soyez consacré à la relève depuis de nombreuses années. De toute façon, bosser en tant qu'instituteur ou à l'ASF, c'est pareil. Pas mal de vacances, un boulot assuré, payé par le contribuable pour coacher 8 matchs par année, à la seule différence avec instituteur où là, c'est 12 dictées par an, dont 6 photocopiées de l'année d'avant. D'après un article que j'ai retrouvé et qui date d'il y a 8 ans, Yves, la première chose que vous faites en vous levant le matin, c'est prendre une douche, preuve que vos nuits sont sportives, d'ailleurs on félicite madame. Votre plat préféré, c'est le filet de perche, par contre, votre boisson préférée, et là nous sommes toutes et tous horrifiés, c'est le Coca-Cola. La bière, le blanc, le rouge ou le pastis à la limite, mais pas le Coca-Cola. Et durant cette interview, à la question de savoir quelle était votre personnalité préférée, vous aviez répondu « votre femme ». Et c'est là que l'on voit qui porte le pantalon à la maison. Alors Yves Desbonnets, on se souviendra de vous, non pas comme joueur, car personne ne s'en souvient vraiment. Par contre, on se souviendra d'un entraîneur qui a exclusivement consacré sa carrière aux jeunes et à la relève. À ce propos, et après avoir vu le match de l'équipe de Suisse contre la Suède, si vous pouviez former un ou deux vrais attaquants pour ce pays, c'est la nation tout entière qui vous en serait reconnaissante. On se souviendra aussi de vous, Yves, comme d'un excellent consultant sur les plateaux de la RTS. Drôle, frais, malin, intelligent, rieur, et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, pour tout cela, Yves, on vous dit bravo et merci.
Voilà Yves Desbonnets pour le portrait de Jérôme Moutet. On vous laisse réagir.
Ah, très joli portrait, très joli portrait. Il a juste oublié que j'ai aussi entraîné du basketball et des enfants dans le football de base. Mais très joli portrait. Et je suis sûr que ma femme sera très contente.
On va revenir à l'actualité chaude, hein. C'est ce quart de finale entre la France et l'Uruguay. On joue la 84e minute de jeu, la France mène toujours 2-0, début marqué par Varane à la 40e et Griezmann à la 61e minute de jeu. Le but de Varane de la tête consécutif à un coup franc excentré, le but de Griezmann après une frappe flottante et une grossière erreur de main de Muslera. Yves Desbonnets, comment est-ce que vous qualifieriez ce premier quart de finale ?
Alors, on s'attendait à une équipe d'Uruguay qui allait mettre quand même beaucoup d'intensité dans les duels et tout. C'était le cas, qui a donné un jeu quand même un petit peu haché, avec quand même peu d'occasions de but et puis beaucoup de duels à mi-terrain. Bon, c'était presque logique que ça s'ouvre un petit peu par une balle arrêtée. C'était très bien joué. On a vu une deuxième balle arrêtée des Uruguayens qui a failli égaliser. C'était dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et puis il a fallu cette grosse erreur du gardien, parce que la frappe était certes assez sèche, certes elle flottait un peu, mais enfin bon voilà, qui à mon avis a décidé du match. parce que maintenant la France est capable de gérer, la fatigue a fait un petit peu son office chez les Uruguayens, et les duels sont un tout petit peu moins nombreux, on voit les Français être capables de bien maîtriser, mais c'est pas un grand quart de finale.
C'est vrai que,
au niveau du jeu.
C'est très fermé en tout cas. Une occasion et demie pour l'équipe de France, 2 buts. Une demi-occasion pour l'Uruguay, 0 but. Et vous l'avez dit, hein, la différence entre les deux gardiens. Lloris qui fait l'arrêt qu'il faut pour maintenir la France à 1-0. Et Muslera qui fait en guillemets couler l'Uruguay. C'est aussi ça la grosse clé de la rencontre.
Oui, bon, bien sûr, au niveau du score et au niveau des buts marqués, c'est clair. Ça fait la différence. Mais après, je trouve que les Français ont quand même été assez forts pour résister à la pression un petit peu parfois dure dans les duels que les Uruguayens ont mis. On a vu quelques fautes à retardement, on a vu un arbitre qui est argentin, donc qui a un petit peu l'habitude de ce genre de match, de ce genre de confrontation qui peut être très chaude. Et là, les Français ont été capables de garder leur nerf, de résister, de ne pas s'énerver. Et donc, je pense qu'ils avaient fait déjà là une grande partie du travail.
On a envie de souligner aussi la performance aujourd'hui. On a envie de dire, comme d'accoutumé, d'Hernandez côté gauche, de Pavard côté droit. C'est des latéraux qu'on n'attendait pas forcément titulaires avec l'équipe de France. Et là, une nouvelle fois aujourd'hui, ils sont absolument impeccables.
Oui, alors c'est aussi dire la richesse du vivier français. Ça veut dire qu'ils ont vraiment un nombre de joueurs absolument incroyable, et c'est vrai que normalement les titulaires, on pouvait parler de Sidibé, on pouvait parler de Mendy, même si là Deschamps a pris un gros risque en prenant Mendy parce qu'il n'avait pas joué un match de la saison, un match entier, donc c'était quand même un risque, mais Mendy pouvait apporter de la puissance, de la vitesse dans le couloir, et Hernandez le fait très très bien, Pavard aussi, et en plus a marqué un goal de rêve avec sa volée contre l'Argentine, donc c'est une réussite, et parfois les coachs ont besoin de ce petit truc. Tiens, je suis obligé, je prends le risque et les deux joueurs s'imposent. Parfois, ça peut être le contraire. Et là, Deschamps a eu la réussite du coach.
Et vous parlez de la richesse française, hein. Elle est imagée à l'instant, hein. 88e minute de jeu, sortie d'Mbappé, entrée de Dembélé, l'ailier du FC Barcelone, c'est-à-dire la richesse effectivement de ce cadre français. 2-0 pour la France toujours, alors qu'il reste 2 minutes 30 à disputer dans le temps réglementaire de cette partie, ça s'annonce très compliqué. Mine de rien, Yves Desbonnaires, la France, sans impressionner depuis le début du tournoi, sans impressionner aujourd'hui non plus, elle fait clairement son bonhomme de chemin. C'est souvent ces équipes-là qu'on n'attend pas forcément, on pense par exemple, au Portugal, il y a 2 ans, c'est une équipe qui a été solide tout le temps, mais qui n'a jamais impressionné et qui arrive au bout. Vous voyez un petit peu la France rentrer dans cette catégorie-là aussi?
Oui, mais la France, quand même, elle assure sa part de jeu. Et pour moi, ça fait quelque chose d'essentiel. Certes, elle n'est pas, on ne va pas dire, elle est phénoménale et elle nous fait vibrer à chaque action, mais elle assure sa part de jeu. Elle assure de bien défendre, mais elle assure aussi, quand même, d'essayer d'attaquer régulièrement, de faire vivre le ballon, de jouer. Il y a une qualité technique quand même qui ressort. Alors ça n'aboutit pas tout le temps, mais il y a quand même cette volonté de jouer. Un petit peu comme la Belgique aussi, le Brésil aussi. Et puis il y a des équipes qui, elles, refusent le jeu. Qu'elles défendent bas, ça ne me dérange jamais, mais elles refusent le jeu. Ça veut dire quand on a le ballon, on dégage. Quand on a le ballon, on le met n'importe où, etc. Et on veut pas jouer, on veut simplement contrer et puis espérer une erreur de l'adversaire. C'est une autre mentalité. Et la France, malgré que sa performance n'est peut-être pas la plus exceptionnelle de ce mondial, mais elle assure sa part de jeu et je pense qu'elle mérite quand même, elle mérite cette demi-finale parce que elle donne quand même quelque chose. Et ça, c'est quand même très, très important pour le football. Par exemple, quand elle a joué contre le Danemark, le dernier match de poule, le Danemark n'a pas joué, a refusé totalement le jeu. Elle a fait 0-0, elle s'est fait démolir par les anciens consultants les anciens joueurs devenus consultants, cette équipe de France, je ne peux plus la voir, Dugarry, Dixit, etc., etc. Et aujourd'hui, après l'Argentine, qui était un match émotionnellement fantastique, eh bien, aujourd'hui, on a l'impression que c'est de nouveau exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, mais ils assurent encore une fois cette part de jeu, cette part de volonté quand même de faire quelque chose avec le ballon. Et ça me plaît quand même.
Alors c'est peut-être la der qui sonne pour l'Uruguay qui bénéficie d'un coup franc à 35 mètres du but de Lloris. On joue la 90e minute de jeu, 2-0 pour l'équipe de France, toujours dans ce quart de finale. Et ce coup franc excentré pour l'équipe d'Uruguay, on connaît les qualités aériennes de l'équipe uruguayenne. C'est un coup franc qui ne va finalement rien donner parce que dégagé en premier rideau par les défenseurs de l'équipe de France. On va bien sûr continuer à suivre ce quart de finale en direct, mais on va également parler de ce qui va se passer par la suite, notamment avec ce gros choc qu'on attend tous. C'est le football champagne, c'est le football offensif incarné. Brésil-Belgique ce soir à 20h. Qu'est-ce qui va faire la différence d'après vous, Yves Desbonnaires, dans cette rencontre entre les deux monstres offensifs de ce mondial ?
Oui, monstre offensif, le Brésil. Le Brésil est quand même plus aujourd'hui, on va dire pas réputé, mais il a une assise défensive exceptionnelle. Ils ont un axe central, même si Casemiro aujourd'hui manquera peut-être beaucoup, ils ont un axe central, Thiago Silva, Miranda, Casemiro, qui est fantastique. Alors, il y a de la qualité technique, il y a du jeu, il y a tout ce que vous voulez, mais je pense qu'ils ont bâti surtout leur campagne sur cette qualité défensive. D'ailleurs, leurs résultats sont clairs, à part le but encaissé contre la Suisse, ils n'ont pas pris un but. Et de l'autre côté, la Belgique, elle, alors bien sûr, défensivement, on pense que ça peut être bien, mais elle a une qualité offensive, elle marque des goals à tout bout de champ, elle a la faculté de jouer variée, elle est capable de poser le jeu, parce que des Hazard, des De Bruyne sont capables de poser le jeu, sont capables de créer des déséquilibres chez l'adversaire, sont capables d'aller percuter et de créer des décalages pour libérer un coéquipier, mais elle est aussi capable, quand ça va pas, comme contre le Japon, de faire, j'appelle ça du Mourinho, ça veut dire, ben voilà, on a de la peine à jouer, on va mettre des ballons dans les 7 mètres. Et là, il fait rentrer Fellaini en 1994, il laisse Lukaku devant, il fait rentrer Xavi, les ballons arrivent, et au bout d'un moment, donc ils ont une variété très très intéressante. Par contre, derrière, peut-être, leur défense à 3. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu la clé, cette défense à 3. Est-ce que contre le Brésil, on peut jouer cette défense à 3 avec un milieu de terrain à 5 ? Je ne sais pas. Ce sera la grande question. Et on se réjouit d'avance de voir que Roberto Martinez, qui est un excellent entraîneur, a concocté. Mais je dirais surtout que c'est un peu l'attaque belge contre la défense brésilienne. Après, il y a les coups d'éclat de William, les coups d'éclat de Neymar. La faculté de Coutinho de réussir des gestes fantastiques, mais je dirais que c'est quand même cette idée de voir un petit peu comment la défense brésilienne va continuer à être aussi solide contre peut-être l'attaque avec le plus de talent actuel dans cette Coupe du Monde.
Alors qu'il reste précisément 3 minutes à disputer dans ce premier quart de finale, la France tient son os, hein, mène 2-0. On revoit à l'instant la faute de main de Muslera sur la frappe flottante de Griezmann. 2-0 pour la France qui va, sauf énorme surprise, se qualifier pour le dernier carré de ces joutes mondiales. On va profiter de vous avoir avec nous, Yves Desbonnaires, pour évoquer le premier match de demain. C'est l'Angleterre qui va se frotter au tombeur de l'équipe de Suisse, la Suède. Qu'est-ce qu'il va falloir aux Anglais pour contrecarrer cette très bonne organisation suédoise qu'on a vue à l'œuvre contre l'équipe de Suisse notamment?
De la patience, beaucoup de patience, et puis des joueurs capables quand même, ça, c'est compliqué de jouer la Suède. On a vu l'Italie en qualification, on a vu l'Allemagne galérer, on va dire, jusqu'à la 94e minute et marquer un but magnifique mais heureux quand même. Et je pense qu'il faut de la patience, mais il faut aussi oser percuter, oser aller en dribble chaque fois que c'est possible. Et c'est pas toujours possible parce qu'ils sont tellement compacts que c'est compliqué. Mais il faut des joueurs comme Sterling, il faut peut-être que les ballons ne soient pas simplement mis en l'air dans cette défense parce qu'ils sont grands, ils font 1m90, 1m94, ils pèsent. Donc il faudra vraiment que les Anglais aient la faculté d'éliminer, la faculté de rentrer balle au pied dans ce bloc suédois pour créer des déséquilibres, pour forcer les Suédois à compenser et à ce moment-là peut-être trouver des espaces libres. Mais la Suède est un vrai bloc. Son 4-4-2 est très très bien huilé sur le plan défensif. La Suède ne prend zéro risque à la récupération du ballon. S'il le faut, il met un pain, je m'excuse de dire ça, mais c'est une façon de parler, c'est-à-dire qu'il dégage un long ballon le plus loin possible. Et donc, c'est difficile de les presser, c'est difficile de récupérer un ballon, c'est difficile de jouer la transition défense-attaque rapidement parce qu'ils sont très vite réorganisés. C'est une équipe qui gêne énormément, qui fait déjouer les autres, et donc il faudra que les Anglais tentent justement ce qu'on n'a peut-être pas assez tenté, c'est-à-dire percuter, aller balle au pied et accepter qu'on perde des ballons, mais qu'à la longue, ça puisse user le bloc défensif suédois.
Alors que le dernier quart de finale mettra aux prises la Russie et la Croatie. On va terminer, Yves Desbonnaires, cette interview par un petit hommage qu'on vous propose à Gilbert Facchinetti, un ancien président du Neuchâtel Xamax qui nous a quitté la nuit passée à l'âge de 82 ans. Yves Desbonnaires, quelle image est-ce que vous gardez de cette figure du football dans l'arc jurassien?
Écoutez, c'était un homme comme le président du FC Tour, M. Luizier, comme le président que j'ai connu à Vevey, M. Rinsot. C'était des hommes de passion. C'était des hommes qui adoraient leur club. C'était des hommes qui, qui y mettaient de leur vie, qui y mettaient de leur passion et qui y mettaient de leur argent. Ils étaient fantastiques d'engagement, ils étaient fantastiques d'amour aussi pour les joueurs qui étaient dans leur club. Et M. Facchinetti était un homme de cette trempe-là et un homme merveilleux pour Neuchâtel et Neuchâtel Xamax, bien sûr. Et c'est pour ça que quand je pensais à lui aujourd'hui, je pensais à l'ancien président du FC Sion, à l'ancien président du Vesport, qui étaient des gens de cette même folie, de cette même passion extraordinaire envers leur région et le football de leur région.
Mais Yves Desbonnaires, merci pour cet hommage. Merci aussi d'avoir participé à ce quart d'heure des spécialistes. Et on vous souhaite évidemment une excellente fin de Coupe du Monde.
Merci à vous. Merci. Bonne soirée.
Alors qu'on note la victoire de l'équipe de France à l'instant, victoire et qualification pour l'équipe de France, qui est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Elle vient de battre l'Uruguay 2-0.
Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.